Septième dimanche du temps ordinaire. Hier, c'était le 19 février. Oui. Attendez. Si on te frappe sur la joue droite, présente aussi la joue gauche. Et puis, pour les ingrats, il y a toute bonté pour les ingrats et pour les méchants. Alors soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas. Ne condamnez pas. Ne jugez pas. Ne condamnez pas. Pardonnez. Donnez. Ne jugez pas. Ne condamnez pas. Pardonnez. Donnez. Hein? C'est sûr que c'est un évangile que nous connaissons tous par cœur, celui-là. C'est le chapitre 6 de Saint-Luc. Verset 36, 6 fois 6, 36. Ça, c'est le contraire de l'Antichrist. Eh bien, la méditation qui nous est proposée, elle est d'un saint, saint Claude, d'un saint qui est paramonial, un saint, c'est un jésuite, et qui a été choisi pour recevoir devait se déployer dans le monde et dans la manifestation là, du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Les deux saints, Marguerite Marie et puis Saint-Claude de la Colombière. Et il propose à l'Église et au monde de s'offrir à la miséricorde de Dieu, de faire un acte de confiance dans la miséricorde de Dieu. Je vais le lire parce que c'est très simple, c'est une prière qui est puisée finalement dans la grâce du Sacré-Cœur de Jésus. Pour moi, Seigneur, pour moi, je vous glorifierai en faisant connaître combien vous êtes bon envers les pécheurs et que votre miséricorde est au-dessus de toute malice, que rien n'est capable d'épuiser votre miséricorde, que nulle rechute, quelque honteuse et criminelle qu'elle soit, ne doit porter un pécheur au désespoir du pardon. Je vous ai gravement offensé, ô mon aimable Rédempteur. Mais ce serait encore bien pire si je vous faisais cet horrible outrage de penser que vous n'êtes pas assez bon pour me pardonner. C'est en vain que votre ennemi et mon ennemi, le mien, me tend tous les jours de nouveaux pièges. Il me fera tout perdre plutôt que l'espérance que j'ai en votre miséricorde. Quand je serai retombé 100 fois et que mes crimes seraient 100 fois plus horribles qu'ils ne sont, j'espérerai encore en votre miséricorde. J'espérerai encore en vous. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez amour comme le Saint-Esprit est amour. Soyez le don parfait, le pardon absolu, comme le Fils de Dieu, le Verbe, l'épousé. perfection absolue d'amour. Et la miséricorde, elle est attribuée au Père. Soyez parfait, comme votre Père est parfait. Dans le Sacré-Cœur de Jésus, il y a une espérance. Si on se plonge dans le Sacré-Cœur de Jésus, il y a une grâce de perfection. Et cette grâce de perfection, c'est la miséricorde. Et elle a un nom, c'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est la miséricorde prévenante de Dieu. C'est pour ça que dans le cœur sacré, divin, brûlant de Jésus, ouvert, même lorsqu'il est déchiré, même lorsqu'il est ouvert, qu'il ne fait émaner que de l'eau, la dernière goutte d'eau, la dernière goutte de sang, dans le cœur de Jésus, l'Immaculée Conception est donnée, hein, comme une miséricorde éternelle, une miséricorde incarnée, une miséricorde prévenante. Tu ne peux pas séparer le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Ils sont jaillissants l'un dans l'autre, l'un vers l'autre. Et aussitôt qu'il y a le don de Dieu, le Père envoie son Fils dans notre monde. Il le fait dans le cœur immaculé de Marie, dans la miséricorde à l'état pur, dans la miséricorde incarnée. Et dès que Dieu, le Père, nous crée, nous, chacun d'entre nous, il le fait dans le jaillissement de l'épousée du Sacré-Cœur de Jésus, dans la lumière du Verbe de Dieu, qui illumine tout homme à l'instant, qui vient dans le monde. Et que soit le plus horrible, le plus cruel, et même mille fois plus cruel que tout ce qu'on peut imaginer de cruauté, Dieu fait encore miséricorde. Personne ne peut désespérer. C'est vrai, c'est quelque chose de très lumineux, éclairant, libérant, enfin, ravissant, délicieux, que ces écoulements continuels de miséricorde dans la paternité vivante de Dieu, même si elle est dévastée, hein, par notre méchanceté, par la méchanceté, s'associant à la méchanceté substantielle du démon, il continue, quoi qu'il arrive, inconditionnellement, à faire miséricorde et à remplacer notre situation adamique, notre situation d'iniquité, de méchanceté, quoi, de cruauté substantielle quelquefois, parce que c'est très cruel de ne pas écouter, de ne pas entendre, de ne pas recevoir l'amour de Dieu. C'est très cruel pour Dieu. Et bien même à cela, il leur donne l'Immaculée Conception, il leur donne la miséricorde prévenante, il leur donne le cœur de Jésus et de Marie à l'état parfait, de manière à ce que la perfection absolue de la paternité d'amour de Dieu dans son don absolu, dans son don vivant et lumineux, dans son éternité comme dans le temps, toutes les formes de bien, toutes les formes d'ajustement à cette perfection de la paternité vivante de Dieu. Il nous le donne de manière tassée, plénière, substantielle, dans l'acte pur de son don, pour remplacer nos imperfections, pour remplacer nos péchés, pour prendre place, pour nous donner la même dignité que la reine du ciel et de la terre, la même dignité qu'elle, la même dignité, la même force, la même puissance, la même miséricorde, le même don, le même pardon que celui qui est venu dans le monde. La même gloire, la même victoire de l'amour, surtout. On ne peut pas, nous ne pouvons plus désespérer. Jésus est venu dans le monde, il a montré son cœur brûlant, il l'a donné, il a été reçu. Il s'est établi dans la dormition, dans ce sommeil mystérieux de d'un amour qui pardonne, qui est le pardon, qui est la miséricorde de Dieu le Père elle-même. Il l'a assumé. Et il nous l'a donné. S'il fallait donner une définition de l'homme, enfin de l'enfant de la terre, d'un fils des hommes, d'un enfant des hommes, de nous, quoi, eh ben, il faudrait dire c'est un être de... Tout homme est un enfant du pardon. C'est un enfant du pardon, c'est un engendré de la miséricorde. C'est la miséricorde qui se déploie dès la conception. C'est le visage de la miséricorde incarnée parfaite de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres de vie miséricordieuse. Et la miséricorde, c'est ce qui rassasie l'âme, le corps et l'esprit. La miséricorde, c'est ce qui nous introduit dans l'ivresse et les délices de la liqueur merveilleuse, délicieuse, enivrante de Dieu. C'est celle qui caresse cette unité qu'il y a en nous entre le cœur, l'âme, la chair, le sang, l'esprit. C'est la miséricorde de Dieu. C'est l'acte pur. Et nous sommes les engendrés de l'acte pur. Le Père est miséricordieux. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Les êtres de la terre, les hommes que nous sommes des êtres de perfection. Parce que Dieu est miséricordieux et il nous crée avec, moulé, rassasié, enivré de ses délices extraordinaires, de ses délices éternelles, de sa miséricorde. Nous sommes les enfants de la miséricorde, nous sommes les enfants de l'amour, nous sommes les enfants du bien, nous sommes les enfants du pardon, nous sommes les enfants de la consolation éternelle, et de la disparition de tout ce qui n'est pas ajusté à tous les hommes et à toutes les profondeurs de Dieu. Et tout ça, on le sait bien, notre foi sans les œuvres de la miséricorde, c'est une foi qui... C'est pas une foi chrétienne, c'est pas une foi humaine, c'est même pas une foi du tout. Notre espérance sans les œuvres, c'est pas l'espérance. L'espérance, quand on espère, on dit, on ouvre nos bras, on ouvre notre cœur, on ouvre toutes les cellules de toutes nos conceptions, toutes les conceptions, toute la nature humaine, entre nos mains pour venir élargir, 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 élargir. Pas à l'infini, puisque le monde de l'homme, le monde humain n'est pas infini, mais élargir, élargir, élargir notre capacité de recevoir la paternité vivante de Dieu et son déploiement dans la miséricorde et l'espérance. C'est notre espérance. Et ouais, je ne sais plus quel est le saint qui a reçu ceci. Jésus disait en lui disant, c'est peut-être par le manuel, je ne sais plus. Si quelqu'un se sent inexcusable, quoi, trop horrible dans ce qu'il a fait, mais ça fait rejeter sa cruauté, sa diablerie, enfin je sais pas comment dire. Tellement quoi qu'il ait fait, il suffit qu'il dise, Jésus, sauve-moi. Et ça suffit. Quand il meurt, par exemple, quand il passe à la dormition, quand il passe dans le sommeil mystérieux de la mort, mais le sommeil mystérieux de la mort, c'est la rencontre avec le pardon, la miséricorde. Mais il suffit pour ça de s'ouvrir, comme une fleur s'ouvre pour exhaler son parfum, et le parfum, c'est l'acte d'espérance. Seigneur Jésus, Jésus, sauve-moi, et ça suffit. Et Jésus, aussitôt, enlève ton manteau de immonde, d'abomination, et il le remplace par une caresse. Il te caresse surnaturellement, divinement, délicieusement, te massage comme de l'intérieur à l'extérieur. Il te met le même manteau que celui qu'il a mis dans la Vierge Marie, dans son couronnement glorieux, après l'Assomption. Tu partages la même grâce qu'elle, avec la mesure qui a été mesurée, dans la mesure de la paternité créatrice de Dieu au jour où il t'a créé, et dans la même mesure tassée, secouée, débordante, que celle dans laquelle il a mesuré son amour, sa bonté, sa miséricorde, à ce qui scrute profondément l'acte pur du Saint-Esprit dans le Christ. C'est ça le message. Voilà un beau message. Voilà, ça c'est l'Évangile, ça. Alors, il y aurait tellement à dire là-dessus, c'est sûr. Mais que tout de même, la parole de Dieu ici, aujourd'hui, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Nous l'avons appris, tout ça, dans les événements de notre vie, notre cheminement à l'intérieur de la grâce, notre cheminement à l'intérieur de la conception, par laquelle nous jaillissons des mains de Dieu. Nous avons appris par l'Église aussi, le catéchisme, je me rappelle, dans le catéchisme, nous apprenions par cœur, quand nous étions enfants, les 14 œuvres de la miséricorde. 14 œuvres de la miséricorde. Il faudrait en faire une chanson, je ne sais pas. Il faudrait que sur la harpe des 10 cordes, notre vie soit sans arrêt, en train de faire cet hymne de la miséricorde. Notre vie est un chant nuptial de miséricorde. Il y a les miséricordes, il faut faire miséricorde spirituellement, mais aussi il faut faire miséricorde de manière incarnée, concrètement et réellement. C'est pour ça qu'il y a les 14. Alors, les 14, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est d'abord, ça vient des pères du désert, ça. D'abord, donner à manger à celui qui a faim. Donner à manger à celui qui a faim. C'est la première chose. Vous voyez, quand on fait miséricorde aux enfants avortés, ils sont des myriades et des myriades. À quelqu'un qui est le plus grand des pécheurs, notre pire ennemi, donner à manger à celui qui a faim. Donner le pain consubstantiel que nous recevons et le lui apporter avec tous les anges de Dieu, tous les innocents. Donner à manger à celui qui a faim. Donner à boire à celui qui a soif. C'est une miséricorde, bien sûr, que donner la présence vivante, réelle, de celui qui a soif. C'est Jésus qui a soif. Jésus sur la croix, il dit: j'ai soif. Il a soif des âmes. Il a soif de cette rencontre, de cette pénétration, dans les délices et les torrents des fleuves de sa vie. Il a soif. Il faut faire miséricorde à Jésus. Il faut faire miséricorde aux affamés. Donner la troisième œuvre de la miséricorde, c'est donner un vêtement à celui qui est tout nu. Donner un vêtement à tout celui qui est tout nu. Ouais, ben, Mais bien sûr, et le vêtement, et même donner sa tunique s'il faut, à celui qui est tout nu, et même si c'est un voleur, donner ton vêtement. Et c'est ce que nous faisons, hein. Lorsque nous recevons la miséricorde de Dieu à chaque prière, à chaque respiration, à chaque battement de cœur, nous donnons le vêtement à celui qui a froid, à celui qui est sans vêtement, à celui qui est sur le chemin agonisant, comme dans la parabole du Samaritain. C'est l'onction, quoi. On le revêt, celui qui transit. Donner un vêtement, c'est une œuvre corporelle, mais donner une couverture, je sais pas, donner, le recouvrir intérieurement et extérieurement. Et quand on dit la parole de Dieu, par exemple, quand on lit l'évangile pendant une demi-heure de suite, ben, on dit que cet évangile, cette parole de Dieu, cette vivante, déborde, surabonde, et enveloppe comme un manteau la terre tout entière. Et comme un vêtement, elle l'enveloppe, elle le pénètre, et fait jaillir à l'intérieur de tous ceux qui n'ont pas ce vêtement. La chaleur de la charité, la chaleur de la virginité toute pure, la chaleur, le vêtement de la Jérusalem dernière, la chaleur immaculée, virginale, de la miséricorde, dans un seul corps mystique vivant d'amour, dans le revêtement intérieur. Enfin, la quatrième miséricorde, c'est d'abriter ceux qui sont sans maison. Et bien sûr, tu ouvres ta porte, le méchant, il peut venir, le gentil aussi. Jésus, Dieu est chez toi, hein, chez moi. Les portes sont ouvertes, je peux aller chercher. Je vais même le chercher sur la route. Donner un abri. Donner un abri à celui qui n'en a pas. Soigner les malades, 4e, 5e. Soigner les malades. Mettre de l'onction, de l'huile sainte sur leurs plaies. Les soulager, soigner les malades. Ah oui, la 6e, c'est œuvre de la miséricorde. C'est d'enterrer les morts, d'être là, de mettre l'âme de ceux qui agonisent dans le corps de Jésus, dans la terre. L'enfoncer dans toutes les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Enterrer les morts. Et puis il y a cette œuvre de la miséricorde spirituelle qu'on apprend aux enfants. Ils doivent le savoir par cœur. Et la première œuvre de miséricorde spirituelle, c'est... Ça vient de saint Thomas d'Aquin. Avertir les pécheurs. Si tu ne donnes pas l'avertissement, est-ce que tu peux dire que tu es miséricordieux vis-à-vis de qui que ce soit? Il ne s'agit pas de condamner, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Tu ne juges personne, tu ne condamnes personne, mais tu fais miséricorde, tu dis mais ça c'est une... Quand il va y avoir l'avertissement, c'est une miséricorde de Dieu. L'avertissement, c'est une mise en pleine lumière de ce que tu ne pensais pas être, un être de péché presque substantiel. Une espèce d'océan de mal, de mauvaiseté. Il faut avertir le pécheur. Par exemple, dans l'éducation vis-à-vis des enfants, il faut avertir l'enfant. Ça, c'est un péché, ça. Quand il est enfant, quand il est adolescent, quand il est jeune, et même quand il est adulte. Il faut avertir le pécheur, mais l'avertir le pécheur, ce n'est pas... C'est le contraire de la tolérance, si je puis dire, dans la tolérance. Mais oui, c'est normal, tu peux... La tolérance, c'est le contraire de la miséricorde. C'est l'antipode, c'est la grimace diabolique, satanique. Avertir le pécheur. Et si tu ne fais pas tes œuvres de miséricorde et de la incarner aussi, corporelle, et les œuvres de la miséricorde spirituelle dans l'ordre, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas accéder au cœur, à l'âme, dans le don d'amour et dans la communion des personnes avec celui que Dieu met proche de toi. C'est ainsi que si tu n'es pas capable d'avertir le pécheur, mais attends, avec c'est la miséricorde qui te fait faire ça. C'est avec la miséricorde, c'est avec la délicatesse la mieux adaptée, la plus en affinité avec celui qui te fait du mal, qui fait du mal, qui déchire, déchiquette l'innocence de Dieu. Et si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas, tu n'auras pas la grâce non plus, et tu n'auras l'incapacité, l'impuissance de faire des actes de miséricorde de la deuxième, dans la deuxième œuvre de transformation de la nature humaine tout entière, remoulée dans la miséricorde de Dieu en l'Immaculée Conception. Alors, donc après la première, avertir les pécheurs, c'est enseigner les ignorants. Et oui, tu ne sais pas que ça, tu ne sais pas quelles sont les invitations de Dieu. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que ça, c'est une horreur, Alors, enseigner les ignorants, parce que tu dis, mais pourquoi est-ce que c'est une faute, ça? En quoi c'est une faute? Mais alors, tu enseignes. Tu donnes la lumière délicieuse de la plénitude d'amour et de lumière de la vérité, celle qui nourrit chaque personne humaine, parce que toute personne humaine doit être, se nourrit spirituellement de la vérité tout entière. Si tu n'es pas capable d'enseigner, hein, si tu n'es pas capable de communiquer la lumière de la vérité, c'est sûr que tu ne peux pas avoir accès non plus à la troisième miséricorde, troisième œuvre qui transformera le cœur de ton prochain et ton cœur en même temps. La troisième œuvre de la miséricorde, c'est conseiller ceux qui doutent. Les gens sont dans le doute, vous savez, nous sommes dans le doute. Il y a certaines personnes qui sont dans le doute. Inlassablement, tu mets l'huile dans les rouages. Inlassablement, tu consoles. Tu conseilles celui qui est dans le doute. C'est terrible d'être dans le doute. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Jésus me pardonne vraiment? Et voilà ce qu'il faut que tu... Qu'est-ce que tu vas faire pour... Conseiller quelqu'un qui doute, c'est lui donner les moyens les plus affinés à sa vie pour qu'il puisse courir librement dans la paix. C'est pacifier mon prochain. Parce que lorsque tu es pacificateur, lorsque tu conseilles, tu mets de l'huile dans les rouages, et tu le mets en miséricorde, tu le mets en lien, tu le mets en communion, tu le mets en harmonie avec tous les autres, avec Dieu, avec la nature, dans toutes les plus grandes profondeurs de sa mémoire, et dans les retrouvailles avec la liberté de l'Immaculée Conception et de Christ en lui. Conseiller ceux qui doutent. Mais si tu n'es pas capable de faire ces trois premières œuvres de la miséricorde, celui qui est proche de toi, tu n'auras pas la grâce non plus de faire la quatrième. Et la quatrième, c'est consiste à supporter patiemment les personnes désagréables. Supporter patiemment, c'est-à-dire porter de manière durable, fidèle, la patience dans la vie fraternelle. C'est le contraire de la colère. C'est le contraire de la révolte. C'est le contraire de l'indignation. Supporter patiemment, c'est porter la fragilité de ceux qui sont avec nous, de ceux qui sont proches de nous, avec la même pas, avec la avec la même, avec le sourire, de l'enfant. Quand une personne est très désagréable, tu la regardes toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonté, beaucoup de bienveillance, et de manière longanime, magnifique, de manière magnifique, c'est la magnificité, d'une manière magnanime, tu vois, supporter patiemment, et en étant sourire, en chantant, en désamorçant le moindre surgissement de la colère, en faisant passer à la vie contemplative. Supporter patiemment les personnes désagréables. On est la maman spirituelle, le frère spirituel de notre prochain, le parrain spirituel. Mais s'il n'est pas capable de faire ses quatre premières œuvres, on n'aura pas la grâce, Dieu ne donnera pas non plus la grâce de faire miséricorde dans la cinquième. La cinquième consiste à consoler les affligés. Les affligés, ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher des choses de la terre. Ils pleurent. Ils sont dans la désolation. Ils sont l'Esprit Saint, être l'instrument de l'Esprit Saint dans notre prochain, qui est l'effusion, la Pentecôte du Saint-Esprit dans notre prochain, pour qu'il se détache, que ces torrents de larmes qui sont en lui deviennent sa nourriture. Tu te nourriras du torrent de tes larmes, et d'être là à côté pour dire, pleurer avec lui, pour être un paraclet, un avocat, un intime, un miséricordieux, d'une proximité étonnante, parce que du coup, il y a une joie profonde et sourde qui nous est commune dans cette œuvre. La consolation laisse place, fait surgir des larmes, hein, une joie invincible. C'est une proximité, c'est une intimité, être l'intime du plus intime de l'intime de notre, de celui que Dieu met proche de nous. À chaque occasion, il y a des gens qui sont des consolateurs comme ça, tellement d'amour, ils sont tellement parfaits dans la miséricorde, qui pleurent avec toi. Et il y a un parfum qui s'en dégage. Une liberté totale dans l'envol, pour que le cerf blessé au sommet des monts vienne savourer la brise fraîche de ton vol. Mais si tu fais toutes ces œuvres, avertir les pécheurs, enseigner les ignorants, conseiller ceux qui doutent, supporter patiemment les personnes désagréables, consoler les affligés, c'est beau. Mais si tu fais pas, si tu n'es pas capable de faire ces œuvres-là autour de toi, au milieu de la terre, dans ta maison, dans ta famille, et c'est ce qu'il faut faire aussi vis-à-vis des enfants qui sont sous l'autel, avortés, affamés, assoiffés, tu ne seras pas capable de faire non plus la sixième. Ça vient, ça s'écoule comme les jours de la semaine. Tu ne peux pas passer au sixième jour de la semaine si tu n'es pas passé dans les cinq premiers jours. Pardonner les offenses. Si tu es un engendré de la paternité miséricordieuse de Dieu, puisqu'il t'a créé, il continue à te créer, pour que tu sois un être de miséricorde incarné. Tu es forcément lié au Saint-Esprit. Et voilà pour les consolateurs. Et tu es forcément lié à celui qui est ta lumière vivante, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Tu es le pardon à l'état pur. Et si on t'a offensé, si on t'a calomnié, si on t'a... tu pardonnes. Parce que tu pardonnes, tu reçois le pardon de la deuxième personne de la très sainte Trinité à l'état pur. Tu donnes le pardon et tu demandes pardon. À celui qui t'offense, tu es capable de demander pardon. À celui qui devrait te demander pardon, tu te demandes pardon pour tout. À celui qui devrait te demander pardon, tu pardonnes tout, tout, jusqu'à la racine. Tu pardonnes tout. Et du coup, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité qui, dans sa spontanéité, épouse ta vie. Et tu es dans une émanation de fécondité éternelle d'amour. Si tu fais cette sixième œuvre de la miséricorde, c'est le sixième jour, c'est ce qu'il y a de plus humain et de plus divin à la fois. Dans l'union hypostatique. Mais si tu ne fais pas tout ça, si tu ne fais pas ces six œuvres de la miséricorde spirituelle, ceux qui sont autour de toi, tu ne recevras pas la grâce et tu ne seras pas écouté par le Seigneur pour faire être la septième. Et la septième, c'est de prier pour ton prochain. Tu pries pour lui. S'il est au purgatoire, tu pries pour lui. Si. Tu pries pour lui, si. Tu pries pour lui. Tu pries en lui, tu pries. Tu viens le visiter. Avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit, tu viens visiter son âme comme on visite une chapelle, un oratoire. Et tu viens te mettre avec lui et prier. Et s'il est dans la perdition, si c'est une âme qui est entièrement dans la perdition totale, il ne peut plus prier, il ne peut plus aimer, il ne peut plus adorer, il ne peut plus louer, il en est incapable. Et peut-être à jamais, ben toi, tu viens le visiter. Tu viens visiter son cœur. Tu viens mettre ton sang dans son sang. Tu viens mettre tes pas dans sa vie intérieure. Tu viens mettre ta personne dans les espaces diaphanes. Et immensément grand, en soif, en faim, en chaleur. Et tu viens prier en lui et à sa place, prier pour les vivants et pour les morts. C'est la septième. Certaines personnes qui disent, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui, oui, mais si tu ne lui as pas pardonné, si la seule pensée de sa présence t'insupporte, si t'as été incapable de lui dire, mais t'es dans le péché jusqu'au cou, là. Pourquoi tu es dans le péché? Pourquoi t'es dans le péché? Mais ce que tu dis, là, c'est... Ce que tu fais, là, c'est... C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Moi, je suis content de pouvoir te le dire, quand même. Je témoigne, c'est-à-dire... Je suis prêt à donner ma vie pour toi, pour expliquer. Je témoigne de là. Pour te dire, voilà, pour que tu puisses rentrer dans l'harmonie, quoi. Du corps spirituel, hein. Vivant de la Jérusalem, tu es appelé quand même à faire partie du ciel. Voilà, c'est beau ça. Hein, c'est les 14 œuvres de la miséricorde. Et du coup, on revient à donner l'Eucharistie, à donner la présence réelle des sacrements, à faire écouler les torrents, les fleuves d'eau vive, des délices de Dieu à ceux qui sont assoiffés, quoi, et etc. Et voilà. Et donc il y a une et la foi et l'espérance et la charité sans les œuvres de la miséricorde, c'est une foi qui n'est pas vivante, c'est une espérance qui est morte, et c'est une charité qui est glaciale. Soyez miséricordieux, comme le Père miséricordieux. Mais lui, il donne la vie. Et quand il me crée dans la conception, c'est par miséricorde qu'il le fait. Et il ne cesse de le faire. Il n'est jamais envoyé parce qu'il est occupé dans l'acte pur de sa miséricorde. Il est continuellement occupé à faire miséricorde. En moi, en me créant, et en faisant de moi l'incarnation de la miséricorde du Père. Ça, il ne faut pas que ce soit dévasté en nous. Hein. Et il faut que nous soyons engloutis dans cette miséricorde de manière parfaite. Puisque le Père est parfait dans sa miséricorde. Et du coup, nous sommes la consolation, le paraclet, les délices, le rassasiement à jamais de la paternité miséricordieuse de Dieu, le déploiement de la Jérusalem épousée, les tourments d'amour et de bonheur de Dieu le Père, dans le sanctuaire de son acte d'amour et de miséricorde à chacun. Si tu n'as pas fait ça dans ta vie le jour où tu t'endors, dans un sommeil un peu mystérieux, tu t'endors, tu diras tout ça je ne l'ai pas fait, c'est vrai. Mais tu sais que l'Église elle est là, ceux qui font miséricorde pour toi sont là autour de toi, l'Immaculée est là et elle te pousse à dire Jésus, sauve-moi. Ma miséricorde, et aussitôt, tu rentreras dans la consolation, la jubilation, l'immaculation parfaite, la lumière, la surnaturalisation, tout va déborder de lumière vivante, surnaturelle, à tous les mystères profonds, intérieurs et intimes de Dieu dans lesquels tu n'es pas rentré. Tout ça, ça va t'envahir, ça va te sanctifier immédiatement, la perfection de l'union, la communion, jusqu'à te rapprocher, mais continuellement, intensément, substantiellement, du voile qui te sépare de la lumière de gloire, de la vision béatifique. Et te rapprocher, te conjoindre, si je puis dire, finalement, à l'instant de ta résurrection, dans le sixième saut de l'Apocalypse. Ça, c'est important. On peut le dire, ça, à tous ceux qui doutent. Et tu sais, il suffit, quoi qu'il t'arrive, quoi que tu sois, ne te culpabilise pas en disant oh, ce que j'ai fait, personne ne peut me le pardonner. C'est impossible. Non. Conseillez ceux qui doutent. Non, n'a aucun doute. Si tu dis Jésus, tu es pardonné. Ça suffira. Ça suffit. Voilà, ça conseillez ceux qui doutent. Enseignez les ignorants. Et j'offre toute ma vie à la miséricorde de Dieu. Je vais faire comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme Marguerite Marie. Je vais m'offrir en victime d'amour éternellement. Voilà. En victime d'amour à la miséricorde de Dieu. Je vais m'offrir en victime éternelle d'amour à la miséricorde éternelle de Dieu. Je suis votre victime d'amour, victime de miséricorde. Je suis victimalement offert en surabondance de miséricorde parfaite. C'est ma vie. Je suis un être de miséricorde et de pardon. Je suis un enfant du pardon. Je suis un instrument du pardon. Je suis un principe de pardon, une source de pardon. Je suis une cause conjointe de la miséricorde éternelle de Dieu. Je suis victime. sacerdoce victime à l'Éternel et miséricordieux d'amour de Dieu. Ça, c'est la spiritualité des derniers temps, ça.